Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
Et oui, on est rendu en novembre. C'est vrai, alors, si vous n'avez pas installé vos pneus, hey, vous y allez en courant au plus maudit. Parce que là, il n'y a pas encore plu. Il n'y a pas encore neigé, je veux dire.
Il n'y a pas givré.
Alors, pour le moment, les ateliers mécaniques sont encore...
Il y a neigé à Charlevoix cette semaine.
Oui, bien, foutre. En novembre, généralement, là, c'est sûr qu'avec les changements climatiques, on est un petit peu dépassé. Là, il y a encore des feuilles vertes un peu partout chez nous. Je suis un peu mélangé. Mais bref, il y a des grosses chances qu'on ait de la neige en novembre. Alors, si ce n'est pas déjà fait, allez donc changer vos pneus d'hiver. De toute façon... il fait assez froid pour que les pneus ne se détériorent pas en ce moment.
C'est 7 degrés.
Voilà, c'est la norme. Seuil. Pensez exact. Au mot 7 degrés, puis on est à peu près à ça en ce moment. Là, fait comme 5-6 aujourd'hui. C'est un petit peu plus chaud en fin de semaine, mais bon, bref, on est dans les bons temps. Alain, salut.
Ben bonjour.
Alors, qu'est-ce que t'as au menu pour nous aujourd'hui? Parle-moi de ça.
Écoute, j'ai eu la chance de conduire. En fait, j'ai conduit encore, ce qui fait que c'est le fun d'en parler comme au temps présent. Le Hyundai Santa Cruz, qui est la nouvelle camionnette qui...
En fait, je pense que c'est moi qui te l'ai donné. Je l'ai eu la semaine passée.
C'est ça, je pense qu'on s'est fait un relais sans le savoir. Puis, écoute, apparemment que ça se vend comme des petits pains chauds, cette petite machine.
En fait, j'ai lu, il y a quelques semaines, une nouvelle qui était sortie. C'était du côté des États-Unis. Là, je veux pas le mettre en contexte au Canada, mais c'était au prorata. Le véhicule le plus vendu aux États-Unis, pas en termes de chiffre absolu, mais en termes de disponibilité versus ce qui est sorti.
Ouais.
C'est ce qui se vendait le mieux. Donc, ça semble avoir été une bonne initiative du côté d'Hyundai.
Ben, ils ont une bonne formule aux États-Unis. On a une version moins diversifiée, variée. En tout cas, le catalogue est moins garni ici qu'il est aux États-Unis, mais c'est quand même un véhicule qui est intéressant.
Bon, on va en parler tantôt dans notre troisième bloc. On va recevoir aussi aujourd'hui Stéphane Pascalon. Stéphane Pascalon, qui est président du club Tesla, mais il est aussi directeur... attendez un petit peu, j'ai son titre, j'avais... Ah, puis voyez-vous, je l'avais mis devant moi.
À l'Institut du véhicule innovant, non? C'est pas un truc dans ce genre-là?
Il a été là, mais attendez un petit peu, je vais vous dire ça comme il faut.
C'est Pascalon qui est un fier défenseur de la chose électrique.
Bon, il est le directeur des projets d'électrification à la Fondation québécoise d'éducation en sécurité routière. C'est pour ça qu'il fallait que je l'écrive. C'est un peu long. Il va nous parler aujourd'hui, en fait, d'un projet d'électrification unique au monde qui vise les jeunes.
Ah bon?
Ça, je trouve ça intéressant.
J'espère qu'on va pas électrifier les jeunes parce que ça va faire mal.
Oui, c'est ça. Alors, ça va être dans notre deuxième bloc. Et qu'est-ce que t'as pour nous en entrée de jeu comme amuse-bouche dans les actualités, mon cher Alain?
Ben écoute, j'ai du bon, du moins bon, mais j'ai de l'électrique, donc c'est pertinent parce qu'on va en parler. Première actualité, chose qui m'a marqué cette semaine, tu sais que Rivian, ça va s'inscrire à la bourse de New York pour question de semaine là.
On veut ramasser quelques milliards.
Exact. Et Rivian, qui est une société américaine qui tente de s'imposer comme le premier fabricant viable entre guillemets de camionnettes et de gros VUS entièrement électriques, espère récolter quelque chose comme 9 à 10 milliards de dollars américains en procédant peu, donc d'ici une semaine ou deux. Un premier appel public à l'épargne, la façon officielle de dire une entrée en bourse, ou en anglais un IPO.
Un IPO, bien sûr.
Si ça se réalise, Rivian aura alors une valeur d'environ 55 à 60 milliards de dollars américains, soit un petit peu moins que GM, qui vaut 80 milliards, et Ford, qui vaut 70 milliards. Pour une compagnie qui n'a pas encore vendu de véhicule, c'est quelque chose.
Oui, exactement. GM est là depuis plus de 100 ans.
Ouais.
Ford aussi, d'ailleurs.
C'est donc deux vieilles entreprises. Détail intéressant à propos de Rivian, l'entreprise, est pour le moment, évidemment, une société privée, qui est détenue à 20% par Amazon, il y a quelque chose comme 5% par Ford, justement, puisqu'on en parle. D'ailleurs, on ne sait pas si Ford et Amazon vont rester actionnaires une fois que l'entreprise va être en bourse, mais ce qu'on sait, c'est que les deux en ont profité de ce partenariat-là avec Rivian pour améliorer leurs technologies respectives. On sait qu'Amazon essaie d'avoir Alexa en voiture de plus en plus.
Oui.
D'ailleurs, on va revenir dans le prochain bloc. Du côté de Ford, on pensait même pendant un moment qu'on allait carrément racheter Rivian pour l'incorporer à ses futurs projets de VUS et de pick-up électrique.
C'est un peu ce que tout le monde a pensé au début. On s'est dit, bon, ben Ford va prendre la technologie de Rivian, va mettre ça dans le pick-up, puis merci, bonsoir.
Exact.
C'est fait, mais c'est pas ça qui est arrivé.
Non, ben effectivement. Puis en ce moment, le catalogue de Rivian est composé de deux véhicules. Le R1T, qui est le premier à être mis en marché, qui est une camionnette électrique, et le R1S, qui est un VUS basé sur la même plateforme.
Exact.
Le principe est le même partout. Hein. C'est une espèce de, on appelle ça une planche à roulettes, un skateboard électrique sur lequel on met le châssis de son choix. Le R1T, donc, est une camionnette qui devrait faire quelque chose comme 480 km par charge électrique. Il a été commencé, la production a débuté il y a quelques semaines, donc les premiers véhicules devraient arriver sur la route incessamment.
En fait, on dit qu'on veut en construire 1000 d'ici Noël.
Bon, voilà.
C'est l'objectif qu'on vise.
Les premières critiques sont assez élogieuses. J'étais étonné. Il y a des gens aux États-Unis qui ont réussi à conduire des premiers prototypes, j'imagine.
Ceux qui votent pour le North American Car and Truck of the Year.
Ah, ben voilà, tu vois. Le véhicule, le R1T, donc, se vend à un prix détail qui démarre à 68 000 $ américains, donc l'équivalent de 75 000 $ canadiens. Pour le moment, la demande est assez forte pour les véhicules électriques, même s'ils coûtent un peu plus cher que ce qu'on souhaiterait probablement payer.
Ouais.
Le R1T se situe entre un Ranger et un F-150 en termes de taille. Donc, c'est pas tout à fait un véhicule, une camionnette de pleine grandeur. Puis c'est un petit peu plus gros qu'un intermédiaire. J'ai hâte de voir ce que à plus grande échelle ou à plus long terme, si l'entreprise va réussir à se tailler une place durable dans un marché que, on sait, Ford s'en vient, GM s'en vient.
C'est parce que là, à peu près tout le monde s'en vient avec un camion. On le sait, c'est un segment extrêmement populaire. C'est le segment qui est le plus payant et qui on vend, en fait, en termes absolus, le plus de véhicules.
Exactement.
Donc, on veut aller jouer dans cette cour-là, mais il s'agit de voir qui va pouvoir s'y rendre et qui va surtout être capable de s'en sortir avec un dollar dans les poches.
Exact. Si Rivian accomplit son objectif, c'est la deuxième marque seulement qui va avoir réussi à entrer dans le marché automobile après Tesla. Au cours des 15-20 dernières années. On sait aussi que Lucid Motors tente la même chose de son côté avec une berline électrique qui s'appelle la Air, en tout cas, dites-le dans la langue que vous voulez. Et eux aussi commencent à mettre en marché ces jours-ci. Donc, ça va être, je pense, dans un an, on aura une belle conversation.
T'es en train de préparer une entrevue avec Lucid. Là, je veux pas vendre la peau de l'ours trop tôt, là.
L'avoir
tué, mais on prépare quelque chose avec Lucid, là, pour l'émission bientôt.
Voilà.
Nouveau chapitre hier, on l'avait annoncé, mais ça s'est fait, en début de semaine. Bugatti, Rimac et Porsche vont ouvrir une nouvelle page de l'histoire automobile. Ils sont maintenant dans le même bain, appelons-le comme ça. C'est le groupe Rimac qui va détenir 55% des parts de cette nouvelle alliance, tandis que Porsche en détient 45%.
Ah oui.
Donc, c'est Matej Rimac, croate, fondateur de la petite compagnie Rimac, qui va être désormais PDG de Bugatti Rimac. Quand même.
Pas rien.
Pour quelqu'un qui a un siège social tout près de Zagreb, en Croatie, levons-lui notre chapeau, c'est quelque chose. Bon, évidemment, Porsche est un actionnaire stratégique parce qu'on a de la technologie chez Porsche. Rimac a quand même réussi en très peu de temps à faire un véhicule extrêmement pertinent avec peu de moyens, là, disons-le. Là, il est parti littéralement dans le garage
exactement.
Chez eux. Là, c'était vraiment ça. Et là, ben évidemment, Stefan Winkelmann, qui était le président de Bugatti et de Lamborghini, va se concentrer du côté de Lamborghini et on va travailler du côté de Rimac avec Bugatti. Donc, bien hâte de voir. Évidemment, fort à parier que des Bugatti électriques sont à nos portes. Parce que,
c'est une question de temps, c'est ça.
Voilà.
Ben oui.
Puis Porsche a déjà de la technologie avec la Taycan. Alors, honnêtement, j'ai bien hâte de voir ça parce que c'est trois pensées différentes. Qui vont être sous le même toit. J'ai hâte de voir comment tout ça va s'amalgamer puis va réussir à faire quelque chose d'intéressant.
Ben, la place est à prendre dans l'espèce de super voiture électrique parce que c'est
absolument,
tout le monde
absolument.
S'en va vers là, mais personne ne sait comment. Donc,
exact.
Il y a
de la place, ça c'est clair.
Mm-hmm. Ben, écoute, parlant de véhicules décadents et un peu ridicules, il y a du nouveau sous le capot, mais un peu partout aussi pour le Range Rover 2022. Moi, j'en déduis que le meilleur est à venir par rapport à ce modèle-là. Je fasse une petite confession d'emblée. Je déteste un peu ce qui est devenu la marque Land Rover depuis des années. Tu sais, la marque incarne le désir d'escalader des volcans tout en sirotant un petit espresso dans le confort d'un luxueux salon sur quatre roues.
J'aime ça.
Mais ça a de moins en moins sa raison d'être quand on voit que le véhicule, essentiellement, est généralement sur les autoroutes de la province.
Surtout quand on voit ça au cœur de Los Angeles, tu dis, bon, on est dans une plaine, il n'y a pas grand-chose à grimper ici. Bon, il faut sortir un peu, si on va vers Malibu, là,
Los Angeles. Écoute, même mal quartier montréalais, l'agglomération montréalaise, que tu veux, puis c'est un peu la même situation. Puis dans un contexte où on doit collectivement réduire nos émissions polluantes de quelque chose comme 70% en lien avec le transport seulement, on peut dire à la blague, ce serait facile de régler une bonne partie du problème en échangeant toutes les Land Rovers sur la route par des véhicules plus raisonnables. Mais bon, bref, le Range Rover 2022 a finalement été dévoilé par Land Rover. C'est le plus gros, le plus luxueux des modèles de la marque britannique. On peut encore dire britannique, hein? Je pense qu'on peut dire ça.
Oui, ben en fait, ça appartient à BMW, mais je dirais qu'il est fabriqué...
En tout cas, peu importe.
Il est fabriqué encore du côté de l'Angleterre. La majorité des ingénieurs, concepteurs et tout ça sont anglais. Donc, il y a encore pas mal de sang britannique dans tout ça.
Le nouveau modèle tombe définitivement dans le panneau de la surenchère de gadgets pour attirer les acheteurs. Ça comprend une direction intégrale aux quatre roues. Les roues arrière peuvent pivoter de 7 degrés.
Jaguar Land Rover, ça appartient à Tata. J'ai dit BMW c'est pour Tata. Le vrai. Moi, c'est Rolls-Royce. Je m'excuse, je m'auto-flagelle. Ah, OK, d'accord.
Ben, on voit pas souvent des
Tata Motors.
De façon,
Tata Motors.
Pour revenir au Range Rover, les poignées de porte sont encastrées, un peu comme les Tesla. Le tableau de bord comporte deux écrans, dont un tactile au haut de la console. Écoute, il y a un système de son Meridian à commande vocale Alexa. Attends, j'en parlais
qui,
dans le
bloc. Mais qui va extrêmement bien.
Ben oui, puis j'avoue, écoute, il y a des enceintes dans tous les appuis-têtes du véhicule. La grosse nouveauté, point de vue... format, c'est qu'on peut enfin installer une deuxième banquette à l'arrière, donc une troisième rangée de sièges pour avoir 7 passagers, ça va faire du bien. Sous le capot, ben, on a le choix entre un 6 cylindres turbo très légèrement électrifié qui fait 375 chevaux ou le fameux V8 biturbo de 4,4 litres
en
de BMW.
En fait, c'est une pile de 48 volts, là. C'est ça ton hybridation.
C'est un arrêt démarrage, c'est tout ça, simplement. C'est.
On appelle ça une hybridation douce.
Exact.
Hein? C'est joli comme terme.
C'est joli.
De façon polie de dire qu'on ne veut pas vraiment investir pour un hybride, mais qu'on veut que ça soit marqué hybride sur l'auto.
Exact.
Voilà.
Alors... Mais attention, parce que le Range Rover 2023, lui, va pouvoir vraiment s'appeler hybride. On va voir apparaître un Range Rover.
Là, on parle d'un hybride branchable.
Exactement, hybride branchable qui va avoir une autonomie électrique de 100 km à une vitesse maximale de 140 km/h, donc ce qui convient tout à fait sur l'autoroute, encore que même plus parce que c'est illégal. Il sera jumelé à un 6 cylindres, donc le même 6 cylindres que tantôt, pour produire 434 chevaux, mais pourrait réduire la consommation du Range Rover, qui est quand même pas un petit véhicule, sous les 5 litres au 100 km,
ça, c'est
qui rendra ce véhicule plus
d'ailleurs, acceptable. Dans notre chronique Écolo Auto, cette semaine, on va parler des 10 véhicules qui ont la meilleure autonomie dans les hybrides branchables.
Ah oui, ah, c'est intéressant.
Alors,
ça va
être intéressant de regarder ça. Je prends une minute pour parler de la Civic SI. Parce qu'on a annoncé le prix.
Oui.
11e génération de Civic. On a vu la berline, on a vu le modèle à haillons. La SI vient de sortir. 4 cylindres turbo, 1,5 litre, 200 chevaux. Donc ça reste pas mal comme c'était. Boîte manuelle uniquement. Pas de boîte CVT. Dieu merci, dans une SI.
Une CVT SI.
Ça serait un crime contre l'humanité. Par contre, il y en a quelques-uns qui ont fait le saut. 33 150 $ plus 1 700 $ pour le transport, préparation. On est à 34 850. C'est plus la Civic dans les bas 20 000 ou les 24-25 000
pour une voiture qui, quand on la regarde, est à peu près grosse comme une Accord il y a quelques années à peine.
Oui, absolument.
C'est moins compact que ça l'était.
Oui, il y a encore des fans. Oui, c'est encore intéressant. Mais le côté qu'on aimait, qui était un véhicule relativement abordable aux performances données.
Une 5 portes, le fun, ben oui.
Voilà, on n'est plus tout à fait là. À l'intérieur, bon, il y a des nouveaux sièges sport, évidemment, avec stabilisation de corps. Donc, on a essayé d'améliorer un peu ce qu'on offre d'appui et surtout de support. Appui-tête intégré au siège, c'est plus séparé, donc c'est monobloc. Les éléments contrastants, bon, il y a du rouge accrocheur pour la garniture de la planche de bord, nid d'abeilles métalliques caractéristiques au Civic qui avec des surpiqûres. Donc, on a gardé un certain nombre d'attraits. Évidemment, il y a l'intégration Apple CarPlay sans fil, Android Auto. Puis, vous pouvez avoir une nouvelle chaîne Bose en option. Dans le véhicule. Cela dit, je suis convaincu que ce sera encore un bon véhicule, mais on commence un petit peu à s'en aller dans un domaine un peu plus pointu quand on arrive à 35 000.
Ouais.
Mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc, on va à la pause et après la pause, on reçoit Stéphane Pascalon.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Notre invité de la semaine est directeur des projets d'électrification à la Fondation québécoise d'éducation en sécurité routière.
C'est important.
Et je l'ai écrit, j'ai pas tenu tout ça par cœur, il s'agit de Stéphane Pascalon. Stéphane, bonjour!
Oui, bonjour.
Alors Stéphane, pour les besoins de la cause, on va dire aux gens qu'on se connaît assez bien. On a travaillé ensemble à quelques reprises, dont le fameux On attend l'homologation officielle de notre record Guinness il y a quelques semaines à Saint-Hyacinthe où tu m'as aidé grandement à l'arrivée pour bien compter tous les véhicules qui passaient. Alors, je te dis merci.
Au nom de véhicules qu'il y avait, vous avez dû travailler fort.
Oui, ouais, ben, en fait, c'est parce que ça passe vite. Hein? Ouais. Puis il faut qu'il passe dans l'ordre parce qu'il y a des règlements très serrés à suivre au niveau de l'homologation de record. Alors, on a fait ça, Stéphane, Jean-François et moi. Là, on était à trois pour faire le travail. Stéphane, tu es sur un projet qui est fort intéressant, qui est un projet d'électrification qui est unique au monde, qui vise les jeunes. Parle-nous un peu de ce projet-là et pourquoi viser les jeunes?
Ben c'est ça. Donc, on parle du projet e-Roule, qui est un projet qui se déroule depuis l'année dernière, qui est pris en charge par le ministère des Transports. Et c'est un projet qui vise les jeunes pour une seule et unique raison, c'est que la majorité de la sensibilisation qui a été faite jusqu'à présent a été faite envers les clientèles cibles des véhicules qui sont les adultes de 55 ans et plus.
Les automobilistes, hein?
Voilà, ceux qui achètent des voitures chez les concessionnaires. Ouais. Mais d'un point de vue éducation, les jeunes ne sont pas du tout sensibilisés à ce qu'est le véhicule électrique, alors que c'est eux les plus touchés par l'environnement et le futur. Ouais. Et donc, l'idée de ce projet, c'était de faire quelque chose d'unique au monde et donc d'introduire dans l'ensemble des écoles de conduite ou le maximum d'écoles de conduite au Québec des voitures électriques pour que les jeunes puissent avoir l'opportunité de les tester. Parce que même lorsqu'ils vont dans les salons, et à l'occasion d'un salon, ben, un jeune de moins de 25 ans, il peut pas les essayer pour des questions d'assurance, etc. Chez les concessionnaires, quand ils arrivent, les concessionnaires, ils les regardent en disant, ouais, tu vas pas vraiment m'acheter une voiture neuve. Donc.
T'as pas vraiment 50 000 piastres dans tes poches pour partir avec une voiture neuve.
Voilà. Donc, tu vas peut-être pas l'essayer tout de suite. Tu vas venir avec tes parents pour l'essayer. Et puis finalement, ils les essayent pas. Donc, ils ont pas l'opportunité de l'apprécier puis de dire qu'est-ce qu'il en est vraiment. Mm-hmm. Donc, là, l'idée, c'était de dire, ben, on va fournir l'opportunité aux jeunes de le faire et eux, comme ça, ils vont pouvoir, plutôt que d'entendre des histoires de « mon oncle m'a dit ceci » et etc.
Ah, et « mon voisin m'a parlé d'eux »,
Voilà, exactement. Là, au moins, ils vont pouvoir avoir leur propre opinion sur le véhicule électrique et pourquoi pas un jour s'en acheter un.
Bon. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Là, est-ce que vous allez voir des compagnies qui fabriquent des véhicules électriques, des clubs de véhicules électriques? Comment vous amenez ces véhicules-là dans des écoles?
Alors, en fait, on travaille avec les propriétaires des écoles de conduite. On a sollicité l'ensemble des écoles de conduite du Québec qui, sur une base volontaire, on dit, nous, on est intéressés à partager participer au projet. Et à partir de ce moment-là, les écoles qui ont été sélectionnées ont pu bénéficier d'un accompagnement pour faire l'acquisition de véhicules électriques. Donc, on a eu une première phase où on avait sélectionné 7 modèles qui étaient des modèles candidats pour les auto-écoles de conduite qui nous paraissaient appropriés. Donc, ça allait de la Hyundai Ioniq Chevrolet Bolt en allant jusqu'à la Tesla Model 3. Puis, on passait par le Kona, le Niro et donc toute une gamme de véhicules qui nous semblait avec un bon rapport prix-performance pour les véhicules d'école de conduite. Okay. Et ensuite, ça c'était pour les 30 premières écoles. Et pour les écoles suivantes, on a élargi le projet où en fait, ils peuvent prendre n'importe quel véhicule. Donc, on s'est retrouvé avec une école de conduite qui a acheté une Ford Mustang Mach-E, par exemple. Donc, ça permet aux jeunes d'essayer des véhicules différents. Et on n'a pas encore de Porsche et de Audi dans les écoles de conduite.
Ouais, on voudrait prendre le cours, nous aussi, là.
Bon, on voudrait prendre le cours, mais il va probablement être plus cher aussi.
Oui, ben en fait, ça change pas le prix des cours, parce que les cours d'école de conduite sont réglementés par la SAC. Mm-hmm. Et donc, quel que soit le véhicule, ça sera pas plus cher. Et en fait, on sait aussi que les véhicules électriques sont, sur la durée de vie du véhicule, moins chers du fait du faible coût en énergie. Exact. Et donc, les écoles de conduite, pour elles, il y a un intérêt économique à faire le changement, surtout avec le prix de l'essence actuel.
Donc, si je comprends bien, Stéphane Pascalon, vous avez travaillé beaucoup en amont avec les écoles pour un petit peu changer leur habitude d'achat, c'est-à-dire de penser à de l'électrique pour introduire ça, justement, dans leur flotte pour que les gens qui vont prendre des cours, surtout des jeunes, parce qu'on le sait, c'est la majorité de ceux qui prennent des cours puissent en profiter.
Oui, ben en fait, on n'a pas eu besoin de tant travailler que ça parce que les écoles se posaient déjà la question.
Okay.
Comme beaucoup de gens se posent déjà la question, on dit le véhicule électrique, etc. C'est juste qu'ils trouvaient pas les réponses. Donc là, on a mis un cadre où on leur offre un accompagnement. Dans cet accompagnement, bon, on offre une certaine aide pour la sélection du véhicule, des conseils, etc. Beaucoup de conseils au niveau de l'installation des bornes, parce qu'il y a un enjeu principal là-dessus.
Oui.
Les écoles de conduite sont souvent locataires dans des commerces, dans des locaux commerciaux. Donc là, faut s'en prendre avec les propriétaires pour installer des bornes, etc. Il y a plusieurs enjeux là-dessus.
Ah oui, ouais, là, c'est, ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. C'est vrai que dans des locaux loués, tu fais pas toujours ce que tu veux, là.
Mm-hmm. Voilà. Donc là, il y a eu des enjeux importants à traiter. Et donc c'est là où ils ont besoin de beaucoup d'aide. Pour dire bon quelle borne on installe, comment on parle au propriétaire pour lui dire, lui expliquer que c'est pas la fin du monde et puis que c'est un investissement et ainsi de suite. Et ensuite, les écoles qui étaient là, bon ben il a fallu tout simplement faire une formation, expliquer aux moniteurs comment ça marche. Donc la même chose dans les moniteurs, il y en a qui sont super enthousiastes, puis il y en a qui sont hyper récalcitrants, inquiets, ouais.
Comme,
etc.
Comme la population en général, disons.
Mais c'est ça, il y a rien qui change.
Hein. Non.
On reste des êtres humains, et donc les personnes sont là, et elles ont leurs inquiétudes, et c'est normal, parce que c'est quand même un changement majeur de passer au véhicule électrique.
Ah, c'est sûr.
L'idée, ben, c'est d'arriver à minimiser un petit peu toutes ces inquiétudes, et à les aider à faire une transition qui soit la plus naturelle possible. Et alors, c'est intéressant parce que ce qu'on voit, c'est qu'à peine ils ont le véhicule électrique, au bout d'un mois, on n'a que des retours. Ouais, c'est super, les moniteurs se battent pour avoir la voiture électrique, les élèves se battent pour avoir la voiture électrique, tout le monde adore ça. Donc, c'est super intéressant de voir que les craintes disparaissent aussi vite que pour tout le monde avec le véhicule électrique.
J'allais demander, Pascal, est-ce que ça change quelque chose au niveau de l'apprentissage à conduire? Est-ce que les jeunes qui commencent à conduire sur une voiture électrique doivent apprendre des choses qu'ils n'apprendraient pas ou qu'ils apprendraient différemment s'ils pilotaient une voiture à essence, par exemple?
Ben, il n'y a pas de grande différence parce qu'on s'entend qu'il faut toujours faire des angles morts, il faut toujours faire des arrêts
ben
et
oui,
s'arrêter
voilà.
aux lumières rouges dans une voiture électrique. C'est la même chose que dans une voiture à essence. La différence majeure, c'est on les sensibilise beaucoup plus à l'absence de bruit, donc à faire attention dans les zones piétonnières, sur les stationnements de centres d'achat, etc., puisque les piétons entendent moins bien les voitures. Hein, donc, il faut faire attention à ça. On les sensibilise beaucoup à l'utilisation de la régénération. Et puis, on introduit un petit peu le one-pedal driving, là, la conduite à
ouais,
une pédale.
C'est souvent la grosse différence. Ouais. C'est qu'on n'appuie pas sur le frein pour ralentir sur une voiture.
Voilà. Mm-hmm. Donc, c'est toujours un petit peu difficile parce que quand ils rentrent chez eux, ils n'ont pas toujours une voiture électrique. Il faut qu'ils se rappellent de freiner parce qu'on ne veut pas qu'ils freinent.
Oui,
pas.
Détail, ben oui.
Détail important voiture, quand même.
Non, mais voilà. Donc, on fait bien attention à ça. Donc, on explique comment ça marche, comment ça existe. Les jeunes adorent ça. Puis après, à chaque fois, on les ramène. L'avantage de la voiture électrique, c'est qu'on peut changer de mode de conduite et puis on désactive la régénération d'énergie ouais. et puis on se retrouve comme dans une voiture à essence.
Mm-hmm.
Ils peuvent jouer sur les deux tableaux.
Okay.
Et puis, la dernière chose, c'est qu'on les sensibilise un petit peu sur les notions de recharge. Donc, au début du cours, à la fin du cours, ils ont l'occasion de brancher, débrancher la voiture. Et puis, ils réalisent vite que c'est aussi simple que de brancher, débrancher leur cellulaire. Et
ah du ouais, coup, même principe.
On démystifie assez vite la recharge.
Comparé avec le téléphone.
Là, Stéphane, parle-nous un peu du projet. D'abord, ce projet-là est là depuis quand? Vous avez combien d'écoles que vous avez visitées? Puis, il en reste encore combien à convaincre? Puis, c'est quoi votre objectif?
Alors, en fait, le projet a débuté il y a quasiment un an, puisque la première école avec qui on a discuté, c'était le 16 novembre l'année dernière.
Ah oui, OK.
Donc, on a commencé à peu près il y a un an. On est actuellement... Donc, ce qu'on vise, c'est 100 écoles de conduite avec 200 véhicules d'ici le printemps prochain.
OK.
Le projet, en fait, s'étire jusqu'à l'automne 2022. Donc, on va continuer à accompagner les écoles même après, mais on voudrait mettre tous les véhicules en circulation un petit peu plus tôt pour pouvoir les accompagner. Et actuellement, on est à près d'une soixantaine d'écoles de conduite avec un peu plus de 120 véhicules en circulation. Donc, on est un peu peu plus de la moitié de nos objectifs. Donc on est là on a eu un petit retard à cause du rappel sur les bolts qui sont gelés depuis deux mois.
Ça a retardé pas mal tout le monde. Ça.
Voilà. Hein, donc.
Mais là la bonne nouvelle c'est que ça recommence là. Ils sont repartis tranquillement là.
Exactement. Donc la bonne nouvelle c'est que ça repart, mais en effet ça nous a ralenti un tout petit peu pendant deux mois pour les mettre en circulation, mais le projet va très bien. On est rendu actuellement à près de 2 millions de kilomètres parcourus avec les véhicules qu'on a mis en circulation. Mm-hmm. Donc en un an, c'est 2 millions de kilomètres qui ont été faits en véhicules électriques en véhicules à gaz.
C'est ça, qui n'ont pas été faits à essence. Donc les GES s'en portent mieux, hein? C'est clair?
Ben oui, parce que en plus, en école de conduite, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de cours où on roule au ralenti.
Oui. On roule en ville, on roule, c'est du stop and go.
Puis en manuel, on cale le moteur, là, ça n'arrive plus, ça non plus. Il y a du bon là-dedans.
C'est ça.
Non, mais on a fait une analyse au début du projet où on a réalisé que les véhicules à essence qu'il y a dans les auto-écoles sont souvent des petits véhicules. Là, ça peut être des Micra, des Yaris, des choses comme ça, qui sont réputés pour consommer relativement peu. Mais en moyenne, ce qu'on voyait, c'est que les véhicules roulent à peu près à 9 litres au 100.
Oui, parce qu'on roule en ville souvent, donc la consommation n'est pas aussi bonne.
Il y a beaucoup de ralentis, on roule en ville, on pratique des manœuvres, on pratique des arrêts, donc ce n'est pas là où le véhicule à essence est le plus efficace. Hein? Et donc, en passant en véhicule électrique, on passe d'un véhicule qui consomme 9 litres au 100 à un véhicule qui consomme zéro. Et ça, c'est quand même très intéressant en termes d'émissions de GES. Donc, pour l'avenir des jeunes.
En terminant, Stéphane Pascalon, est-ce qu'il va y avoir une phase 2 à ce projet-là? Une fois qu'on aura atteint nos objectifs, on va vers quoi?
Alors, on vise actuellement, on est en discussion avec le gouvernement pour voir s'ils sont prêts à aller plus loin. C'est certain qu'il y aurait un objectif de se dire qu'on souhaite que d'ici 2025, au moins la moitié des écoles de conduite possèdent un véhicule électrique. Et probablement que d'ici 2030, l'ensemble des écoles de conduite aient un véhicule électrique, puisqu'on sait tous que en 2035, on arrivera.
Il va falloir que les écoles aient tous des véhicules de conduite. Oui, c'est ça. On sera rendu là.
Donc, on est en discussion actuellement avec le gouvernement pour amener les phases suivantes. Il y a un intérêt très fort de la part des écoles, mais comme je dis, c'est comme la population. Hein, il y a un intérêt très fort pour la population. Mais il y en a qui attendent un véhicule à 800 km d'autonomie, il y en a qui attendent un véhicule qui a les bonnes fonctionnalités en fonction de leurs besoins. Et là, on se retrouve un peu avec la même situation dans les écoles de conduite. Il y en a qui ont encore quelques inquiétudes. L'enjeu principal reste les infrastructures de recharge. C'est vraiment là où on a un enjeu principal, beaucoup plus que les véhicules, étonnamment. Là.
Ben, grand merci, Stéphane Pascalon, pour ton temps. Je pense que ça a un intérêt certain pour beaucoup de gens. Et on a appris, en tout cas, moi, j'ai appris quelque chose ce matin. Donc, bien intéressant. Merci et on se reparle bientôt.
Merci beaucoup.
Salut, Stéphane.
Alors voilà, c'est Stéphane Pascalon qui s'occupe d'un projet qui s'appelle e-Roule, qui en fait introduit des véhicules électriques dans les écoles de conduite. Mm-hmm. Donc, fort intéressant. On a déjà un bon bout de chemin de fait. On est à peu près à la moitié des objectifs. Nous, on va à la pause et après la pause, on revient avec nos essais routiers et notre chronique écolo-auto de la semaine.
Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Alors, troisième bloc de l'émission, avant de parler de nos essais routiers, d'abord vous rappeler que vous pouvez écouter le balado Ça tient la route sur vos plateformes préférées, Spotify, Google, Apple, sur le 98.5fm.ca. Vous pouvez aller dans la section balado. Et Ça tient la route est là, donc on est généralement là en milieu de semaine, le jeudi, pas mal assez souvent. Et on est en diffusion, en émission de radio, le dimanche soir à 19h. On va juste avant les élections municipales.
C'est vrai.
Bien sûr. Oui. Mm-hmm. Pas d'aller voter.
Ben, je suis allé voter en anticipation parce que je dépouille.
D'accord. Ouais. Alors, moi, j'irai voter dimanche, mais on est là à 19h tous les dimanches sur les ondes du 98.5. Et on est aussi un peu partout en province, mais pas toujours aux mêmes heures. Fait que si vous nous écoutez ailleurs que dans la grande région métropolitaine, je vous invite à aller faire un tour sur nos stations sœurs, le 104.7, le 106.9. On est à Québec, on est un peu partout, le 93.3. Regardez la programmation locale, vous trouverez notre émission. Mmh. Voilà, c'est dit. Chronique Écolo Auto de cette semaine de nos amis d'EcoloAuto.com. On parle des 10 véhicules hybrides branchables avec la meilleure autonomie. En fait, ceux qui autonomie s'en viennent électrique. Et ceux qu'on a. Ouais. Autonomie électrique. Mmh. C'est drôle parce que le véhicule, le premier en haut de la liste, est exactement celui dont tu parlais tantôt, le Range Rover PHEV qui s'en vient
ah oui.
en 2022. En fait, ça va être un modèle 2023.
Exact.
N'allez pas courir chez les concessionnaires, il est pas encore là. Bon, il sera pas donné, là, on s'entend.
Oui, non, mais ramassez vos sous, effectivement.
C'est cher. Mm-hmm. On annonce un 100 km, mais WLTP. Ça veut dire probablement 80
km.
Le cycle européen qui est toujours immensément optimiste. Mais c'est quand même 80, ce qui est plutôt bon. Donc, ça va être dans les modèles très, très chers. Dans le plus abordable, on retrouve un modèle qui est malheureusement introuvable, le RAV4 Prime, dont on doit attendre entre un an et demi et deux ans.
Ben, ça évite de polluer parce qu'on l'a pas.
Ben donc, voilà. Mais lui est à 68 km. Donc ça, c'est un véhicule qui est intéressant. Mais
effectivement,
aussi.
Un excellent véhicule parce qu'on l'a essayé.
Absolument, absolument. Ouais. Ford Escape PHEV qui, lui, est un petit peu moins compliqué à trouver.
Mm-hmm.
61 km, ce qui est quand même bon. Là.
Quand
moi,
même, ben
moi
oui.
n'importe quoi en haut de 50, on jase. Là.
Ouais.
On a un peu d'autonomie. On peut aller quelque part. Le nouveau Mitsubishi Outlander, pas celui qu'on avait,
celui
qui s'en vient,
On
annonce 65 km d'autonomie en cycle WLTP. Donc, 50, probablement autour de 50 dans ces eaux-là. Mais c'est déjà mieux que les 30 et quelques qu'on avait avant. On a augmenté la grosseur de la batterie. Ça aussi, c'est intéressant. On a également le Sorento PHEV et le Santa Fe PHEV parce qu'ils ont le même moteur.
Mm-hmm.
On met sur le même piédestal. On est à 50 km. Il va y avoir le XC60 Recharge qui s'en vient du côté de Volvo qui va annoncer à peu près 30 km. Donc, ça, c'est moins bon.
Ouais.
Mais voyez-vous, la liste n'est pas très longue. Là. Je viens de vous donner ce qu'il y a de mieux.
Mm-hmm.
Puis on en a nommé 6. Là. Alors, ça va assez vite. Alors, moi, j'aimerais que les constructeurs, on passe un petit message ici, là, travailler sur votre autonomie dans les modèles branchables. Parce que souvent, on dit en anglais des « compliance cars », des voitures qui sont construites spécifiquement pour respecter les normes demandées.
Ouais.
Et on fait pas l'effort supplémentaire de dire « bon, ben tant qu'à mettre des batteries, mettons-en donc un petit peu plus, puis on y en donne un petit peu plus aussi. » Puis mm-hmm. je pense que ça, les gens vont l'apprécier. Fait que pour le moment, on en est là. Si vous voulez voir l'article au complet, c'est sur ecoloauto.com. On a l'article de toute façon avec l'émission en podcast sur le site de l'Annuel Auto, annuelauto.ca.
Mm-hmm.
On va mettre le lien pour l'article en même temps qu'on mettra le lien pour l'émission. Alors voilà, c'est dit. C'est notre chronique Écoloauto de la semaine. Toi, t'as roulé, tu me parlais en début d'émission, Santa Cruz. Parle-moi un petit peu de ça.
Ben écoute, je vais commencer en disant, je suis toujours épaté quand je croise sur la route là, des camionnettes. Écoute, les F-150, le Silverado, c'est des chars d'assaut. C'est rendu énorme,
c'est gros.
Ces véhicules-là. Pendant ce temps-là, du côté des plus petites camionnettes, ben, on a assisté à une petite traversée du désert, hein, disons-le comme ça, pendant quelques années, malgré l'existence de modèles comme le Honda Ridgeline, Nissan Frontier, Toyota Tacoma. Le Santa Cruz se veut donc une espèce de réponse de la part de Hyundai là, à ce manque de plus petites camionnettes compactes, plus près de ce qu'était le Ranger dans les années 90.
C'est vrai.
Probablement même d'ailleurs que le Ford Maverick, qui devrait, en tout cas, que j'ai hâte d'essayer, parce
qu'on attend.
D'un instant à l'autre, il va tomber un peu aussi dans cette catégorie-là. Quand il sera commercialisé, on verra bien. En attendant, le Santa Cruz semble avoir misé juste parce qu'il se vend beaucoup, on le disait en entrée d'émission. Évidemment, ce véhicule-là a une benne assez courte parce qu'essentiellement, c'est une version pick-up du Tucson, là, qui est le petit VUS.
D'ailleurs, c'est ce que j'aime de ça. C'est-à-dire que ça se conduit pas comme une camionnette.
Exact.
C'est extrêmement confortable, l'espace est bon. Mais on a, vous allez me dire, on a une boîte de 4 pieds.
C'est ce que j'allais dire, effectivement.
Oui.
Parce que la définition de pick-up est assez stricte. Ici, là, une benne de 4 pieds, 3 pouces de l'autre, très exactement. Ouais. C'est la plus petite, je pense, dans ce créneau-là. Le Ridgeline fait 5 pieds quelque chose.
Ah oui, c'est le plus petit, là.
Cela dit, elle a un haillon comme un vrai de vrai pick-up et elle s'utilise comme la boîte sorte d'un pick-up.
Et on peut remorquer 5000 livres.
Exactement.
Fait à noter, qui est très bon pour un moteur 4 cylindres.
Mm-hmm. D'ailleurs, on trouve sous le seuil de la benne, même si elle est un peu courte, un petit rangement protégé des intempéries. Et au-dessus, il y a une toile qui peut être déroulée pour dissimuler le contenu, ce qui fait que c'est comme une espèce de coffre, malgré tout.
Exact. On peut style du Ridgeline, là.
Exactement. Ouais. Évidemment, bon, puisque tout ça exige une certaine rigidité, on sent au volant qu'on conduit une camionnette. Il n'y a pas vraiment l'illusion qu'on conduit une berline un peu surélevée. T'sais, on parlait à une autre époque d'une Subaru Baja, par exemple, qui
oui.
était une espèce de héritière, ouais. d'un autre genre de tradition automobile.
Pour
là,
payer
de...
moins cher d'assurance, on avait mis deux sièges dans la boîte en arrière. Parce que c'était sur papier une 4 places.
C'était un peu...
Je connais personne qui s'était... Ah ben, en fait, c'est pas vrai. J'ai vu des gens s'asseoir dans les sièges derrière, mais c'était un 2 places.
C'est pas un héritage.
Non, non. Alors que là, on a quand même un intérieur confortable.
Exact.
De l'espace à l'arrière. Et pour ceux qui font des travaux légers, là, les jardiniers, ceux qui vont faire des petites courses, qui ont besoin d'espace, il faut quand même dire que la benne se ferme, se mm-hmm. verrouille, et vous avez un espace de rangement tout à fait intéressant.
Ah oui,
mais faut pas le voir comme un pick-up dans le sens pick-up du terme, là. Mais
ben,
il peut faire des...
bonne chance. Hein? Les fameuses feuilles de gypse, on vous souhaite la meilleure des chances. Il y a quand même un petit côté camion.
Le 4 est celui-là, pas celui-là.
C'est un peu ça qui arrive.
Ouais, c'est ça.
Écoute, ça, moi, il y a un petit j'ai trouvé la conduite bon, intéressante, tout ça. La consommation n'était pas optimale. On a au Canada un 4 cylindres turbo de 2,5 litres qui anime le Santa Cruz. Il fait 281 chevaux. Il est jumelé à une boîte automatique à 8 rapports et il est livré de facto avec un rouage intégral. C'est probablement la combinaison idéale pour l'acheteur canadien.
Ça va très bien, honnêtement. Ça va très bien.
Il y a un mode de conduite pour route et un mode de conduite hors route qui, bon, écoute, c'est pour le plaisir parce qu'à mon avis, c'est un peu superflu. Peu importe, la traction est là. Avec tout ça, notre consommation moyenne entre 11 et 12 litres au 100 km à vide, ce qui est correct, oui. mais ce qui aurait pu être mieux.
Ça aurait pu être mieux. Moi, j'ai fait du 11.4. Tu sais, j'ai fini ma semaine à 11.4.
Voilà. Ben, je suis exactement là, aussi.
Bon.
On sait qu'il existe un Tucson Hybrid.
Peut-être vendu aux États-Unis.
J'ai dit hybrid, ça, comme elle est
belle. Oui, hybrid. Hybrid.
Hybrid.
C'est comme il y a e-tron chez Audi, puis il y a le hybrid.
Il y a ça drôle à glisser.
Tu viens peut-être de donner une idée, toi, là.
On va partir quelque chose avec ça. Bref, il y a un Tucson hybride. Donc, et comme c'est à peu près le même véhicule, on peut imaginer qu'il pourrait exister un Santa Cruz hybride, mais pour l'instant, Hyundai dans Pipe Mo. Donc, on imagine.
Non.
On ne sait pas si ça va arriver ou pas.
On parle de l'amener aux États-Unis.
Et tu le disais tout à l'heure, à l'intérieur, Hyundai a vraiment fait des progrès en matière d'ergonomie. Tout est bien pensé. Je suis pas tombé en amour avec la surface tactile là, de la console qui était extrêmement lisse et qui inclut un écran tactile lui aussi, évidemment.
Il manque quand même quelques boutons.
Ça aurait été...
Moi, là, le volume de radio à effleurement,
ça me tombe
sur les nerfs.
Le mode des molettes, le mode des roulettes fait
les
tellement
nerfs,
bien.
N-E-R-R-E-S, là, les nerfs, oui.
Il y a de la place pour 3 personnes à l'arrière, mais disons que 2 semblent plus raisonnables parce que la banquette est, comme on disait, bon, elle est groovée, donc elle est moulée pour 2 personnes. Et tout ça est vendu à un prix de détail qui démarre à 38 500 $, pardon, je vais finir par le dire.
Oui.
C'est probablement la meilleure des deux options catalogue, l'autre coûtant 44 800. Il y avait une troisième version, mais elle a disparu, donc je ne sais pas si elle est encore existante, qui était entre les deux, quelque part à 41 000, je pense, $. Écoute, de base, le Santa Cruz, c'est une camionnette tout à fait séduisante pour les gens qui cherchent un véhicule utilitaire. L'utilité d'une camionnette, mais pas une grosse camionnette.
Puis écoute, je pense que Hyundai a misé juste parce que je lisais, ça fait quelques semaines sur le fil de presse, que c'était le véhicule le plus vendu au prorata. On s'entend pas en termes absolus.
Partait vite
pas...
des cours des concessionnaires.
Ouais, c'est ça.
Exact.
C'est le véhicule qui restait le moins longtemps dans la cour des concessionnaires aux États-Unis.
Je veux dire ceci, et c'est peut-être un peu pour ça aussi que c'est très populaire aux États-Unis, c'est qu'il y a une version plus abordable aux États-Unis avec un moteur non turbo.
Voilà.
Qui aurait peut-être permis de vendre un Santa Cruz ici plus près des 30 000 $ qui aurait vraiment été un coup de circuit.
Ouais.
C'est le seul gros défaut de ce véhicule-là. Sinon, si vous cherchez ce genre de véhicule-là, ça vaut la peine de considérer absolument.
Parfait. Moi, de mon côté, j'étais dans les VUS, pas électriques, parce qu'on n'essaie pas que des véhicules électriques. Modèle, j'ai bien aimé le X3, qui a été longtemps une espèce de compromis. On a eu le X1. Est arrivé le X2. Plus tard, le X3, le X4, le X5,
mm-hmm.
le X6, le X7. Hein, on
le X7
n'est
pas
là.
Petit, hein, non, effectivement.
Non, le X7, c'est gros. Mais le X3 a été à une certaine époque de la grosseur du X1 en ce moment, là, littéralement.
C'est vrai.
2012, je me rappelle, j'avais été au lancement du X1.
Mm-hmm.
Puis là, à partir de là, le X3 a commencé à grandir un peu pour un peu creuser le fossé. Mais je trouve qu'aujourd'hui... C'est un beau format, le X3. Certains trouvent le X5 un peu gros.
Ils ont pas tard.
Un peu cher. Véhicule, ouais. Bon, le X3 est pas économique. Ça dépend ce que vous allez chercher. Parce que il y a une grande famille de X3. Là, le modèle que j'avais à l'essai cette semaine, c'était le X3 40i.
Mm-hmm. Avec le
M40i. Ouais. Avec le moteur 6 cylindres en ligne. En fait, le même que dans le X3M, mais à 382 chevaux au lieu de 463, je pense. Puis t'en as 503 dans le compétition. Là,
parce qu'on en a besoin.
On tombe dans des affaires ben de fou. Très honnêtement, je trouve que c'est le modèle qui offre le meilleur compromis. C'est-à-dire qu'il y a les 4 cylindres, le 4 cylindres 2 litres turbo là, qui fait 248 chevaux puis 258 livres-pied de coupe, je pense, qui est dans les modèles d'entrée de gamme, qui va bien, mais il manque un peu cette espèce de nervosité, de verve qu'on connaît des modèles BMW. Pour
dire que le 6 cylindres de BMW a toujours été leur...
Et le 6 cylindres en ligne, c'est vraiment le cheval de bataille chez BMW. Exact. C'est le modèle, c'est le moteur qui a fait tellement bien connaître la compagnie pour les bonnes raisons, pour sa, son onctuosité, sa conduite qui est toujours intéressante. Et c'est ce qu'on a dans le M40i. C'est 3 litres, turbo, 382 chevaux. On a mis aussi l'hybridation légère cette année.
La fameuse batterie.
Exactement. Bon, écoute, qui a quand même un avantage certain. Mm-hmm. La consommation diminue, là, puis de façon quand même significative. Écoute, là, sur l'autoroute, je roule à du 7.8.
Il y a l'optimisation de la cylindrée aussi, parce que BMW a fait du beau travail.
L'optimisation de la cylindrée, puis 48 volts, c'est qu'il prend la relève en démarrage, coupe le moteur à vitesse réduite, permet de fonctionner en roue libre sur l'autoroute. Donc, quand vous allez à une vitesse de croisière, à un moment donné, là, c'est... Je vous dis pas que c'est le moteur de 48 volts qui vous amène. Là, je pousse un peu, là. Mais il y a quand même une relève et une assistance qui fait en sorte que la consommation... moi, j'ai régularisé à 110, 112, là. Puis écoute, je me tenais dans les entre 6 et 7 pour un moteur de 382 chevaux. C'est tout à fait intéressant.
Chez Hydro-Québec, on dit qu'il écrête le pic.
Oui, voilà, exactement. On écume, on enlève le bon. À l'intérieur, on a, je dirais, mise à jour l'intérieur. En fait, on a pris ce qu'on vient de faire dans la série 3, série 4, puis on a mis ça dans les X3, X4. C'est pas compliqué.
Voilà.
Tableau de bord, dernier, le iDrive 7, le dernier.
Qui est très bon.
Qui va, lui, va bien, parce que les iDrive, Dieu sait qu'on en a eu de la misère.
Ça a été long à y arriver. Ça a été long.
Et mon véhicule à l'essai avait beaucoup d'options. On est chez les Allemands, quand même. 895 $ pour le gris Brooklyn, qui est la couleur du véhicule.
Et oui.
1200 $ pour poste de pilotage numérique, donc avec les options numériques. 3000 $ pour le cuir rouge dans la voiture. 7900 $ pour le groupe qu'on appelle le groupe de luxe, qui comprend entre autres un système audio Harman Kardon, qui comprend des pare-soleil latéraux, des sièges arrière réglables, un afficheur tête haute, bon, etc., etc. Ouf. Puis il y a un autre 2000 $ qu'on appelle le groupe assistance au conducteur. Alors, mon 66 000 $ de base était à 84 335 $. Donc, c'est pas abordable, on est loin de là. Sauf que vous avez une belle machine entre les mains. Les gens qui ont les moyens d'arriver là, sinon, le 4 cylindres va très bien. Mm-hmm. J'enlève rien au moteur 4 cylindres qui est bien construit, qui est très fonctionnel.
Les gens qui ont X5 qui veulent peut-être réduire un peu leur empreinte ont une option avec le M40.
Là. Voilà, exactement. Mm-hmm. Puis je trouve que le modèle est silencieux, bien fait. Bon. Là, on les a mis sur les roues d'hiver parce qu'on approche l'hiver. C'est des roues de 21 pouces l'été qui cognent un petit peu, faut être honnête. La suspension sport, là, si vous voulez vraiment pas... C'est une option que beaucoup de gens qui veulent un peu plus de oomph vont prendre. Mais ça raidit le véhicule au point où là, le confort commence à être un peu compromis. Moi, j'irais pas de ce côté-là. Il y en a suffisamment avec la configuration de base pour avoir tout le plaisir que vous allez avoir de besoin. Mais c'est un format qui est dans le juste milieu. C'est un véhicule qui est capable de tout faire et qui le fait bien. Et c'est un des modèles dont la fiabilité est très correcte. BMW ont eu toutes sortes de problèmes. Mm-hmm. Donc, beaucoup de modèles, un bon espace. Donc, modèle qui est fort intéressant. Alors voilà, ça fait le tour cette semaine de ce qu'on avait. La semaine prochaine, tiens, je vais vous parler parce que j'ai eu aussi le MX-30 en essai chez Mazda cette semaine. Et j'ai fait des trajets, mais là, j'ai pas le temps de vous en parler. Mais la semaine prochaine, je vais vous reparler de mon expérience. On sera là. Soyez prudents sur la route. Merci à Jean-Christophe Ouellette qui était derrière la console. Et nous, on se reparle pour une autre émission la semaine prochaine. Salut.
Salut.
Ça tient la route. Un balado C23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google.
C'est 23.